Au quotidien, avec Hélène Denis.
On est en train de se chicaner, Mathieu.
Non, on se chicane pas.
Non. Mais on fait de la mise en scène dans la radio. Là, on se prépare. On veut que ça soit bien, que l'introduction soit agréable pour les auditeurs et auditrices ainsi que nous. Alors aujourd'hui, nous aurons la chance de parler. Elle sera même en studio, Catherine Léger, autrice de Changer de vie. C'est son plus récent projet qui sera présenté très bientôt à la Grande Licorne à partir du 20 janvier. Alors elle sera avec nous autour de 10h40 minutes. Nous aurons les parasports avec Dominique Tremblay. Dominique qui va nous parler notamment de Alexis Guimond, qui continue de s'illustrer dans les montagnes européennes. Et nous aurons également nos chroniqueurs qui sont déjà au bout du fil. Il s'agit de Monique Kirouac ainsi que d'Yvan Deslauriers. Et peut-être qu'en 2026, je les recevrai en studio un jour. Peut-être pas aujourd'hui, là, parce que nécessairement, on n'a pas envie de sortir quand on n'est pas obligé. Yvan, vous qui rigolez, à vous la parole. Vous allez parler de marche aujourd'hui.
Oui, il semblerait que la façon dont on marche, ça influe sur notre espérance de vie.
La façon dont on marche ou le rythme?
Ben, c'est ça le titre. Je vous ai lu le titre intégralement.
OK.
Mais quand on lit l'article, moi, je pense que c'est plutôt l'inverse. C'est l'espérance de vie qui peut être évaluée selon la façon et le rythme, vous avez raison, dont on marche. Mais c'est assez surprenant comme concept, et ça semble être bien appuyé par la recherche. Alors, je vais vous en parler un petit peu pas mal, finalement.
C'est le sujet de votre chronique. Merci, Yvan.
Oui.
Et Monique, bonjour, Monique.
Bonjour, Hélène. Bonjour à tous nos auditeurs et auditrices.
Vous me disiez que c'était très, très beau dans les cantons de l'Est ce matin.
C'est magnifique, oui. Quand on regarde par la fenêtre, c'est magnifique, c'est blanc.
Ouais.
Les conifères sont teintés de blanc. Je dirais que j'ai un paysage noir et
blanc.
Gris et blanc.
Okay. Le camailleux.
c'est ça, exactement.
Alors, qu'est-ce qui a attiré votre attention cette semaine, Monique?
Ben, mon article va traiter de l'autisme, vous allez dire encore, Monique. La dernière fois qu'on en a parlé, en fait, je relatais le témoignage d'un professeur de l'Université de Montréal qui vit avec le trouble du spectre de l'autisme. Mais cette fois, c'est Florence Dujoux, qui est journaliste pour Québec Science, qui nous explique en fait... que c'est pas simple de définir le trouble du spectre de l'autisme. Ça résulte, en fait, Hélène, d'une combinaison assez complexe de plusieurs facteurs et que c'est pas juste l'utilisation d'éthylénol, d'acétaminophène durant la grossesse, comme
ouais.
nous le laissent croire les politiciens américains, qui a un effet sur le spectre de l'autisme auprès des enfants naissants. Voilà.
Dont le beau Donald.
Ben, je ne voulais pas le nommer.
Qui est bon dans les faits.
Je sais pas s'il est
beau, là, Hélène. Oui, en tout cas. Pour ceux et celles qui ne suivent pas l'actualité, c'est bon de préciser la chose.
Oui, tout à fait. Mais c'est ça. Ouais, vous avez bien raison.
Ce matin, j'ai utilisé les transports en commun pour me rendre au travail. Et on disait tantôt que c'était beau, hein, le paysage tout blanc. C'est moins stressant que d'être en voiture, ça, c'est sûr. Même si j'ai attendu, quoi, 3 quarts d'heure l'autobus.
Ah.
Mais j'ai apprécié le silence. Il y avait quand même du silence autour de moi. Et dans le métro, il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Et surtout, il y en avait beaucoup qui toussaient. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les gens ne toussent plus dans leurs coudes.
Oh non!
Comme à une certaine
époque.
Ils portent
pas de masque, Hélène?
Non, j'ai vu aucun masque. Moi, j'ai mis le mien sous forme de foulard. Alors, je me suis dit, les gens...
Certaines personnes rêvent d'être au-dessus des autres, mais au fond, ils se foutent du ciel, c'est pour laisser d'être notre. S'ils vivent le long de la côte, c'est pour être pris pour un phare et planer la marée haute quand leur vie est en retard. Oh, oh. Les gens
baiser les gens. Oh, les gens qui font la fête. Oh, sans se casser la tête. Oh, les gens qui font la fête. Oh, faites de la place. Avec les gens. Oh, les gens qui font la fête. Oh, sans se casser la tête. Oh, les gens qui font la fête. Oh, faites de la place.
Robert, Robert, les gens.
Et il y a des gens qui décident de partir pour le bien du Québec. François Legault a annoncé sa démission mercredi en matinée. Le premier ministre demeurera toutefois en poste jusqu'à ce que son successeur soit choisi. Les médias ne parlent que d'une chose, le départ de François Legault qu'il a annoncé hier officiellement en conférence de presse à 11 heures. Pour le bien de son parti et surtout pour le bien du Québec, le premier ministre François Legault a annoncé mercredi qu'il s'apprêtait à quitter son poste, mettant un point final à une carrière politique de près de 30 ans. On en parle dans Le Devoir notamment. Je souhaite vraiment que la prochaine élection porte sur les grands défis qu'on a au Québec et non sur une simple volonté de changement, a déclaré l'élu de 68 ans, à peine une heure après avoir convoqué les médias tout près de ses bureaux de Québec. Je vois bien qu'actuellement, beaucoup de Québécois souhaitent d'abord du changement, puis, entre autres, un changement de premier ministre, a-t-il ajouté, sans prendre de questions. Et Michel David signe un texte qui apparaît à la une du Devoir d'aujourd'hui, un trait de lucidité. Le premier ministre Legault avait beau jurer qu'il serait toujours là aux prochaines élections, le doute persistait. Qui veut aller à l'abattoir? Il était difficile de le croire quand il disait avoir hâte à la prochaine campagne électorale. Il avait semblé trouver celle de 2022 si pénible que vouloir renouveler l'expérience dans des conditions aussi défavorables semblait relever du masochisme. L'opération de relance de son gouvernement au début de l'automne dernier n'avait donné aucun résultat. L'échec du bras de fer avec les médecins qui s'est conclu par le départ dramatique de Christian Dubé aura sans doute été le proverbial clou dans le cercueil, Michel David. À la une de la presse plus, François Legault, dans les coulisses d'un départ, au pouvoir depuis 2018 et fragilisé par les sondages, François Legault capitule. Le fondateur de la CAQ passera le flambeau au plus tard dans 3 mois, selon nos informations. La presse vous entraîne dans les coulisses de la décision du premier ministre. Beaucoup de chroniques à ce sujet, celle d'Alain Reyes, « Quand l'humilité devient un acte politique », Jean-Philippe Descaries, « Une vision marquée par les vagues », Francis Veil, « Des gains et des échecs marquants », Paul Journet, « Après le choc », L'inconnu et l'éditorial de Stéphanie Grandmont à lire aujourd'hui « Quand le ciment de la CAQ ne tient plus ». Et dans son éditorial, elle écrit « La clé de son succès, ravir les électeurs libéraux avec un agenda économique fort et séduire les électeurs péquistes avec un message nationaliste qui défend les intérêts du Québec ». Sans prôner l'indépendance. Un rassembleur, ce talent aura bien servi le premier ministre durant la pandémie, où il a su établir une relation privilégiée avec la population. J'ai senti une complicité avec les Québécois qui ont accepté de faire des sacrifices, en particulier chez les jeunes, confiait-il en annonçant sa démission mercredi. L'une de ses grandes fiertés est d'avoir réussi à former 10 000 préposés aux bénéficiaires pour voler au secours des CHSLD. Cette offensive montre qu'il aimait l'action, qu'il cherchait des solutions au lieu de s'enliser dans des études sans fin, quitte à faire demi-tour en cas d'erreur, mais le François Legault qui marchait sur l'eau durant la pandémie a commencé à prendre l'eau dès le début de son deuxième mandat. Les allers-retours absurdes à propos du troisième lien ont miné sa crédibilité, lui faisant perdre un siège lors de l'élection partielle dans la circonscription de Jean Talon. Le Parti québécois lui a ensuite ravi Terrebonne et Athabasca, où la CAQ a atterri en quatrième place. Une vraie claque. Et puis, je termine avec la une du Journal de Montréal. Legault y pensait depuis l'été, démission surprise. Rémi Nadeau écrit que Legault y pensait depuis l'été et a écrit son discours la semaine dernière. Beaucoup, beaucoup de chroniques. Il a rallumé le nationalisme, Richard Martineau, l'usure inévitable du pouvoir, Joseph Facal, parti comme ses modèles politiques, Antoine Robitaille, Mathieu Bock-Côté, un profond amour pour le Québec, des chèques pour diriger, Francis Gosselin, démuni face à Trump, Emmanuel Latraverse, la chaloupe prend l'eau, Gilles Prou, et un départ serein et lucide, selon José Legault.
This melody. Plus grand, plus fier ou plus...
Joli choix, Hélène. C'était Julien Clerc, 10 mélodies.
Merci beaucoup, Mathieu. La chronique d'Yvan Deslauriers. Yvan, la marche, ça fait du bien et même que ça peut étirer notre espérance de vie.
Ben oui. Et c'est souvent en regardant la façon dont une personne marche qu'un médecin peut établir, peut se faire déjà une idée sur l'état de santé de la personne et même son espérance de vie. Alors, c'est un article que j'ai trouvé dans l'actualité du 13 janvier 2026. Ça a été écrit par Kwok Din Nguyen, qui est gériatre et épidémiologiste et chercheur au CHUM, au Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Il est aussi l'un des cofondateurs et l'expert médical de l'entreprise Eugéria, qui s'est donné pour mission d'améliorer le quotidien des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Et dans le titre, on en parlait tantôt en entrée d'émission, le titre c'est « La façon dont vous marchez influe sur votre espérance de vie » et en sous-titre « Votre vitesse de marche peut révéler de nombreuses choses sur votre santé et même indiquer le temps qu'il vous reste. » Un peu. En tout cas, moi, ça a été un titre qui m'a accroché.
C'est sûr.
Mais ça ne révèle pas de façon très, très précise, là, soyez sans crainte. Alors, il commence son article en disant « Lorsque je reçois une personne âgée en consultation, mon évaluation de la santé débute dès la salle d'attente. Est-ce qu'elle peut se lever sans aide et sans effort? A-t-elle besoin d'une canne ou d'un déambulateur? Et surtout, à quelle vitesse marche-t-elle? À première vue, l'intérêt pour la mobilité peut sembler anodin. Mais saviez-vous que les personnes qui marchent plus vite vivent plus longtemps? Une personne de 85 ans qui marche rondement a, en général, une plus longue espérance de vie qu'une personne de 75 ans qui marche lentement. Alors, faut-il accélérer la cadence pour espérer glaner quelques années de vie supplémentaire? C'est ce qu'on va voir un petit peu dans l'article. La méthode utilisée pour quantifier la vitesse de marche n'est pas compliquée. On chronomètre le temps nécessaire pour parcourir 4 ou 5 mètres avec une démarche usuelle. Un test simple, mais qui en dit beaucoup. Il n'existe pas de réel consensus sur ce qui constitue une vitesse de marche trop lente. Mais comme la vitesse normale de marche d'un adulte, d'en moyenne 4 km à l'heure, donc pour faire 10 km, ça prend à peu près 2h30 selon cette vitesse-là, ce qui semble, en tout cas, selon mon expérience, qui semble tout à fait normal. Les gériatres s'accordent à dire qu'une personne qui marche à 1,8 km à l'heure, la moyenne c'était 4, 1,8 km à l'heure, le fait trop lentement. Certains s'inquiètent même dès que ce rythme baisse en deçà de 2,9 km à l'heure. Il semble qu'il y a plusieurs études qui comparent les marcheurs rapides aux marcheurs lents et elles ont démontré l'association entre la vitesse de marche et la mortalité. Si l'on prend un groupe d'aînés du même âge, qu'on mesure leur vitesse de marche et qu'on les suit pendant plusieurs années, on voit que ceux qui se déplacent plus vite ont nettement plus de chances d'être encore en vie 1, 3, 5 ou même 10 ans plus tard. On a tendance à imaginer que ce sont uniquement les maladies graves, comme un cancer, un accident vasculaire cérébral ou une crise cardiaque, qui prédisent notre survie. Or, ce que montrent ces études, c'est qu'il faut aussi considérer la forme physique générale pour évaluer cette survie. Quand on y pense, ce n'est pas si surprenant. D'abord, la marche fait appel à plusieurs systèmes du corps humain. L'appareil musculo-squelettique, les muscles, les articulations, les os, les systèmes cardiovasculaires, respiratoire, neurologique, mais aussi la santé mentale. Pour marcher d'un bon pas, il faut un cœur et des poumons en santé, des muscles et des nerfs qui répondent bien et de la motivation. La vitesse de marche reflète le fonctionnement de l'ensemble du corps plutôt que d'un seul organe. Elle permet aussi d'évaluer la gravité d'une maladie. Après avoir diagnostiqué une insuffisance cardiaque, par exemple, le médecin peut en mesurer la sévérité selon la distance qu'une personne peut parcourir malgré cette insuffisance cardiaque et la vitesse à laquelle elle le fait. Autre exemple, si deux patients ont une crise cardiaque, celui qui récupérera davantage retrouvera une plus grande vitesse de marche et aura ainsi une meilleure espérance de vie. Lors d'une évaluation gériatrique, on peut utiliser la vitesse de marche comme un marqueur de la santé générale afin de détecter de nouvelles maladies ou des aggravations des maladies existantes. Si une personne se met tout à coup à marcher moins vite ou si elle marche plus lentement qu'attendu, ça pourrait indiquer la progression d'une arthrose ou d'une maladie respiratoire. La vitesse de marche peut aussi servir à prédire le risque de complications d'une intervention chirurgicale majeure, comme le remplacement d'une valve du cœur. Une vitesse de marche extrêmement lente annoncerait un grand risque de complications et de faible récupération. Bien que cette prédiction ne se concrétise pas systématiquement pour chaque individu, cette information contribuera dans certains cas à la décision de ne pas intervenir. Alors, si vous marchez lentement, est-ce le temps d'augmenter la cadence en espérant que cela allongera votre survie? La réponse est, roulement de tambour, oui et non.
Ah!
C'est une réponse très politicienne.
On est déçus!
Oui, je le sais. Moi-même, j'étais déçu quand je l'ai lu. D'une part, les études montrent, hors de tout doute, que l'activité physique régulière améliore la santé et donc la survie. Une personne qui est très active ou qui décide de le devenir vivra en moyenne plus longtemps que si elle n'était pas active. La marche et indirectement sa vitesse est la cause de la survie prolongée. Donc, ça explique pour la réponse oui. Mais d'autre part, la marche est aussi la conséquence de la santé de tous les systèmes qui la permettent. Les maladies qui entraînent un risque augmenté de mortalité, comme une maladie pulmonaire importante, engendrent aussi une vitesse de marche plus lente. Tenter d'adopter un régime intensif d'activité physique ne fera pas disparaître une maladie pulmonaire obstructive chronique, un cancer ou une autre maladie qui s'affiche par une marche lente. Voilà pour le non. Dans ce cas, il est tout indiqué de continuer à être actif dans la mesure de ses capacités, tout en modérant ses attentes. Mais quand on parle de santé, il y a toujours un volet qu'on contrôle et un autre qui nous échappe. Il en va de même pour la vitesse de marche. On ne peut entièrement garantir l'association entre le rythme de marche et la survie. Mais se lever de son fauteuil, s'activer et se mouvoir d'un bon pas mettront toutes les chances de son côté. Alors, c'est l'article qu'on peut trouver dans l'actualité tout récemment, le 13 janvier, écrit par Kwok Din Nguyen. J'espère que je n'ai pas trop massacré son nom. Parce que je parle souvent de marche le jeudi matin. Mm-hmm. Alors, ça nous donne... Là, on ne commencera pas à se regarder, voir on marche assez vite, pas assez vite. Mais c'est intéressant de voir le lien qui est fait dans cet article-là entre la vigueur qu'on met à la marche et notre état de santé général. Je pense que ça peut... C'est ce que je garde de cette lecture-là. Je vois que le temps file. Il reste 2 minutes avant qu'on ferme pour ce 30 minutes. Je voulais juste vous indiquer que cette semaine, il y a une chronique qui est parue dans Radio-Canada Sport qui parle d'une étude sur le déclin du hockey et le mythe des talents précoces. C'est écrit par Martin Leclerc. On en a fait part beaucoup dans la, à la radio il y a deux jours.
Et c'est un des chevaux de bataille de ce journaliste depuis quelques temps déjà.
Tout à fait. Et c'est, il y a vraiment des faits intéressants qui démontrent hors de tout doute.
Ben, raisonnable.
Oui, hors de tout doute raisonnable. Tiens, c'est une bonne façon de le dire, que de choisir un sport et de se spécialiser dans ce sport-là dès le jeune âge ne garantit en rien que cette personne-là va devenir une vedette ou va devenir un athlète prépondérant dans son sport. Et ce qui était intéressant dans cette étude-là, c'est qu'on l'a fait pour des sportifs, mais on l'a fait aussi pour des gens qui jouaient aux échecs, pour des gens qui avaient des passions particulières, la musique, des choses du genre. C'est vraiment intéressant de voir que à jeune âge, c'est plus la généralité qui est importante que la spécialisation. Alors, je vous invite à le lire, c'est vraiment intéressant.
Oui, alors, on trouve ça sur le site de Radio-Canada?
Oui, sur le site de Radio-Canada Sport, sous la plume de Martin Leclerc.
Parfait. Avez-vous la date?
Oui, 13 janvier.
13 janvier, c'est...
Oui, c'est comme avant-hier.
Genre. Merci beaucoup, Yvan. À venir, une chanson d'Étienne Dao. Et puis, ce sera la chronique de Monique Kirois qui nous parle de l'autisme, une partition génétique complexe tirée d'un article de Québec Science.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Je serai ton ami et ton boyfriend aussi, celui qui guidera ta main pour voir ton chemin s'éclaircir. Je serai ton pote, ta dope, pharmacopée. Je serai le cachet qui fond sous la langue pour t'apaiser. Je serai tout près, gardant bien mes distances. Ton poison le plus violent, ton fils de joie, ton astre blanc. Je jouerai à tous les hommes de ta vie que j'incarnerai. Je serai ton défi, mais ni ton père, ni ton psy. Et lorsque tu dérouilles, je serai là pour calmer les embrouilles. Une solide épaule. Si tu perds le contrôle, ta machine infernale, ton étalon, la BO de ton film. J'incarnerai à l'envie.
La voix envoûtante d'Étienne Dao à l'antenne de Canal M, la voix de l'inclusion. L'autisme avec Monique Kirouac, c'est un texte que vous avez trouvé dans Québec Science de janvier-février 2026.
En effet, Hélène, et c'est sous la plume de Florence Dujoux. Alors, en septembre dernier, on se rappellera, le secrétaire à la santé des États-Unis, Robert F. Kennedy Jr., et le président Donald Trump ont affirmé qu'il existait un lien entre la prise de Tylenol pendant la grossesse et l'autisme. Leur déclaration a été, on s'en doute bien, démentie par des centaines de médias, par des associations médicales et par l'Organisation mondiale de la santé. Une méta-analyse publiée en octobre 2025, co-signée par l'épidémiologiste Robert Platt de l'Université McGill, a enfoncé le clou, rien de moins. Non, l'acétaminophène pris pendant la grossesse n'augmente pas le risque pour l'enfant à naître. En fait, après des décennies de recherche, le constat est clair. Il n'y a pas une cause simple, mais plutôt un faisceau de facteurs qui, dans certaines conditions, peuvent mener aux troubles du spectre autistique que l'on synthétise par TSA.
Alors, on retient, Monique, un faisceau de facteurs.
Oui, qu'est-ce que j'ai dit?
Non, mais vous l'avez dit, mais je trouve que c'est une belle expression.
Oui, tout à fait, un faisceau de facteurs. La majorité de ces facteurs sont génétiques. De fait, des centaines de variations génétiques, soit de petits changements de lettres dans le code ADN, ont été associés à une prédisposition à l'autisme. Parallèlement, de nombreuses études ont montré une corrélation entre les TSA et l'âge avancé des parents à la conception, la prématurité, un déséquilibre hormonal chez la mère, les infections et le diabète pendant la grossesse, ainsi que divers polluants. On peut penser aux pesticides, à la fumée de cigarettes, aux gaz d'échappement, etc. Et bien d'autres, bien sûr, éléments de pollution. Ainsi, les assertions simplistes n'ont pas leur place dans le domaine de l'autisme où tout est une question de nuances et de zones grises. L'article nous invite à voir la définition. Avant de chercher les causes d'un état, encore faut-il pouvoir le caractériser. Le DSM-5, qui est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, classe l'autisme dans les troubles neurodéveloppementaux sous la domination de troubles du spectre autistique. Le diagnostic d'autisme ne repose pas sur un biomarqueur. Il est donc impossible de l'établir à partir d'un test biologique comme une prise de sang. C'est le jugement du clinicien qui constitue le seul critère, nous indique Baudouin Forgeau d'Arc, qui est pédopsychiatre et chercheur au CHU Sainte-Justine. Malgré tout, le DSM-5 mentionne deux groupes de symptômes caractéristiques qui peuvent être plus ou moins marqués, d'où la notion du spectre de l'autisme. Les difficultés en matière d'interaction sociale et de communication d'une part, et les comportements, les activités et les intérêts restreints ou répétitifs d'autre part. Or, l'autisme se manifeste d'autant de façons qu'il y a de personnes concernées. Quelle est la limite du continuum? Est-il raisonnable d'utiliser un seul diagnostic ou faudrait-il plutôt distinguer des catégories? Il n'y a pas de groupe homogène en psychiatrie, fait valoir encore le docteur Forgeau d'Arc. Sébastien Jacquemot, qui lui est généticien au CHU Sainte-Justine, estime qu'attribuer la même étiquette à des personnes très différentes contribue à complexifier la recherche. On n'a qu'à se pencher sur la génétique pour prendre la mesure de cette incroyable diversité. On sait depuis longtemps que les gènes jouent un rôle majeur dans l'autisme. Des scientifiques ont cherché à déterminer dans quelle mesure les différences génétiques entre individus contribuaient à l'apparition de l'autisme. Cette contribution des gènes a été estimée à 80 % par une étude internationale menée en 2019 sur plus de 2 millions de personnes, dont plus de 22 000 avec un diagnostic d'autisme. Ces prédispositions génétiques ne sont cependant pas toutes héritées des parents, puisque certaines mutations surviennent par hasard au cours du développement de l'embryon. Les scientifiques distinguent en fait deux grands scénarios de développement du TSA. Dans le premier, la mutation d'un seul gène suffit à entraîner l'autisme. On parle alors d'autisme monogénique, qui s'accompagne souvent de déficiences intellectuelles. Ce scénario ne concerne toutefois que de 5 à 10 % des personnes autistes. Dans le deuxième scénario, qui représente la majorité des cas, le TSA n'apparaît qu'en présence d'une combinaison de dizaines ou de centaines de variations génétiques qui, individuellement, ne causeraient pas de symptômes. Mais en interagissant, elles augmentent la probabilité de développer un TSA qualifié de polygénique. Bref, vous le constatez, l'architecture génétique de l'autisme est encore mal comprise et surtout très complexe. À preuve, même une variante génétique fortement associée à l'autisme ne donne pas systématiquement lieu au profil autistique. C'est pour cette raison que les scientifiques s'intéressent de plus en plus à l'épigénétique, c'est-à-dire à l'ensemble des mécanismes qui contrôlent l'activation ou l'inhibition des gènes en modifiant de façon réversible la structure de l'ADN sans toutefois en changer le code. Bon, pour simplifier notre compréhension, on nous dit, si on se représente l'ADN comme des notes sur une portée musicale, l'épigénétique correspondrait aux indications de nuances spécifiant de jouer chaque note plus ou moins fort. Si les modificateurs épigénétiques ne se manifestent pas au bon moment, ben le cerveau ne va pas se développer comme prévu. Certains facteurs environnementaux sont aussi susceptibles de moduler les mécanismes épigénétiques. Par exemple, l'âge avancé du père pourrait impacter sur les spermatozoïdes et affecter le développement neurologique de sa progéniture. La recherche a aussi permis d'invalider certaines causes de l'autisme dénuées de fondements scientifiques, et on pense à la piste des vaccins qui a été écartée depuis longtemps. Une méta-analyse de 2014 portant sur 1,25 million d'enfants n'a trouvé aucun lien entre l'autisme et les vaccins, dont celui contre la rougeole, la rubéole et les oreillons. Pour certains spécialistes, par ailleurs, la question des origines de l'autisme occupe trop de place dans la recherche. C'est le cas de Laurent Motron, qui est psychiatre et titulaire de la chaire de recherche en autisme Marcel et Rolande Gosselin de l'Université de Montréal. Monsieur Motron croit plutôt que l'autisme est une possibilité humaine, comme le fait d'être gaucher ou d'avoir un jumeau. Il aimerait que davantage de ressources soient consacrées à la compréhension du fonctionnement des personnes autistes, notamment en ce qui a trait à leur acquisition du langage. Au-delà des mécanismes, la recherche devra aussi continuer à se pencher sur le soutien aux personnes et aux familles concernées. C'est un peu ce que nous disait le professeur Bissonnette il y a quelques semaines, là, dont je vous faisais état. Dans la très grande majorité des cas, le défi est davantage celui de l'inclusion sociale. Le premier besoin des personnes autistes, c'est d'avoir des chances dans la société et d'être acceptées comme elles sont. D'autant que pour plusieurs, l'autisme est plus qu'un simple diagnostic, c'est un élément identitaire important. Je ne sais pas, Hélène, si vous avez regardé l'émission Facteur A.
Absolument. J'ai vu le premier épisode avec Fred Pellerin. J'allais justement vous en parler parce que samedi, ce sera Roxane Bruno, où 25 autistes interviewent une vedette et ça donne une heure de télé absolument merveilleuse.
Je suis tellement d'accord avec vous. On est touché, on est ébranlé, on est impressionné et on voit là, mon Dieu, le spectre. n'est-ce pas?
Tout à fait. Dans tout son registre, oui. dans tout son éventail. Et je voulais aussi... Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ce sont des questions qui vont de c'est quoi ta couleur préférée à « As-tu peur de la mort? » là.
Oui.
Et il n'y a pas de filtre. Et les personnalités qui sont interviewées ont l'air un peu ébranlées, mais elles sont complètement disponibles. Paraît-il que ça prend 3 heures pour enregistrer ces 43 minutes de télévision. Et ça passe le samedi en passant. Là, ça passe le samedi,
oui.
Si vous voulez le regarder à 20h sur ICI Télé, mais c'est facilement aussi trouvable sur tout.tv et en reprise sur audio.
Et ça vaut vraiment la peine.
Vous allez être
touchés.
Vraiment.
Et on a des talents musicaux, des talents de slam qui sont mis à l'avant-scène, des talents de rap.
Tout à fait. Oui.
C'est merveilleux.
Merci, Monique, d'en parler. Et c'est important aussi de se rappeler que l'autisme n'est pas une maladie, mais une condition.
Non, c'est un trouble neurodéveloppemental.
Merci.
Tout en hochant de la tête, c'était Amaro de BB Club.
Les brèves avec Monique et Yvan. Yvan, on commence avec vous. Vous nous amenez au parc.
Oui, mais présenté comme ça, ça a l'air comme le parc au coin de la rue chez nous. Mais c'est des parcs un petit peu plus grands, vous allez voir. C'est dans l'infolette du magazine Espace qu'on peut trouver sur Internet. C'est 10 parcs du Québec à explorer en hiver, la semaine, pour éviter la foule.
Oui, quand on a la chance hein, de faire
oui,
ces activités-là la semaine.
La semaine. Alors, ceux qui ont la chance d'avoir des horaires flexibles en télétravail ou comme certaines personnes que je connais personnellement qui sont à la retraite, ça peut être une option intéressante. Et c'est pas très loin. En fait, pour ceux qui, il y a beaucoup de monde qui demeure dans la région métropolitaine, c'est pas très loin de Montréal dans plusieurs des cas. Ça commence avec la réserve naturelle Galt à Mont-Saint-Hilaire. Je savais pas qu'il y avait une réserve naturelle avec le nom Galt, G-A-U-L-T, à Mont-Saint-Hilaire, dans la Montérégie. Je fais juste vous lire le descriptif. C'est la même chose pour tous les, c'est le même genre de descriptif pour les autres. Je vous invite à aller lire pour en connaître davantage. Alors, très fréquenté l'été, le réseau de sentiers de cette imposante et remarquable montagne est aussi ouvert à la raquette l'hiver, en s'étendant sur 25 kilomètres. Les points de vue depuis le sommet, dominant le lac Hertel, qui sont imprenables. Des sentiers de ski de fond sont également aménagés avec un réseau de sentiers. Donc, ça vous donne une idée de ce qu'on peut y trouver dans l'article. Il y a le parc national du Mont-Saint-Bruno, aussi dans la Montérégie, tout près. Le parc national d'Oka, dans les Laurentides, qui est à peu près, je ne sais pas, une demi-heure de Montréal, à peu près, quand il n'y a pas trop de circulation.
Oui, une demi-heure, trois quarts d'heure. Mais la semaine, c'est vrai que ça va bien en général.
Ensuite, on s'éloigne du centre-ville de Montréal, là, le parc régional Val-David à Valmorin, le parc national de la Jacques-Cartier dans la région de Québec, la vallée du Bras-du-Nord aussi dans la région de Québec, le parc d'environnement naturel de Sutton dans les cantons de l'Est, le parc national du Mont-Orford, évidemment, dans les cantons de l'Est, le parc régional du Mont-Ham, ça aussi dans les cantons de l'Est, et on finit par le parc du Massif Sud, en Chaudière-Appalaches. Alors, plusieurs suggestions de très beaux sentiers à explorer la semaine, quand il n'y aura pas trop de monde.
Oui. Est-ce qu'il y a un prix d'entrée?
Dans certains cas, il y en a, oui. Okay. Ça tourne autour d'une dizaine de dollars quand il y en a, mais certains autres, c'est gratuit.
Espace.ca pour avoir tous les détails. Monique, oui. On continue avec vous. Une deuxième des 10 découvertes de l'année de Québec Science. Vous avez commencé la semaine passée.
Oui, alors aujourd'hui, c'est une découverte tout à fait, je trouve originale, atténuer la douleur grâce au beau tempo, au bon tempo musical, Hélène.
Ah.
Alors, on sait que les propriétés analgésiques de la musique sont, en fait, elles sont bien connues, mais parfois mal comprises, encore une fois. Une étude révèle qu'un tempo proche du rythme individuel de chacun peut optimiser son efficacité. Alors, on imagine là, quand un groupe commence à entonner la chanson « Bonne fête », qu'est-ce qui se passe? Ben, les premières mesures sont souvent un peu chaotiques parce que chacun démarre à son propre rythme. Une équipe montréalaise a découvert que la prise en compte de ce rythme naturel pourrait jouer un rôle dans la gestion de la douleur. La musique, Hélène, réduit la douleur de 5 à 10 % par rapport au silence.
Ah,
et
oui.
On gagne de 5 à 10 % additionnel lorsqu'on la calibre sur le rythme interne de la personne. Donc, c'est un effet total là, de 10 à 20 % de réduction de la douleur. Si la musique seule ne suit pas à faire disparaître la douleur, ben son effet apaisant est reconnu par plusieurs études et ces données pourraient favoriser son intégration dans les protocoles de soins en permettant de développer des thérapies musicales personnalisées. C'est une approche du traitement de la douleur assez simple à utiliser. Je terminerai en vous donnant l'avis du jury. Alors, il y a quelque chose de fascinant dans l'idée qu'il existe un tempo propre à chaque personne et que ce tempo est plus apaisant qu'un autre. Si cette méthode simple peut contribuer à soulager les personnes en souffrance, pourquoi s'en priver, tout simplement? Alors, c'est une découverte qui a été faite en collaboration entre autres l'Université McGill et une étudiante allemande.
Et vous, Monique, est-ce qu'il y a une musique en particulier qui vous apaise, qui vous fait du bien?
Ah, moi, Hélène, la musique, différents types de musique. J'aime beaucoup la musique classique, j'aime beaucoup le jazz. Ça roule tout le temps chez nous. Hein?
Ah oui?
Il n'y a pas une minute de silence dans notre maison. Il y a de la musique à tous les étages.
Ah bon? Je ne savais pas ça.
Oui.
24 heures sur 24.
Ben pas 24 heures sur 24. Quand on dort, il y a pas de musique.
Vous dormez dans le silence.
Non, on se lève le matin, bon, on écoute la radio, mais après ça, rapidement, on change à la musique. Et il y a des haut-parleurs un peu partout qui nous permettent d'en profiter. Et puis, c'est peut-être pour ça qu'on est assez calme.
Merci. Et puis, Yvan, vous avez une autre brève. Mais vos brèves de ce temps-ci sont soit longues ou soit moyennes.
Oui, c'est ça. J'ai pas de brève, brève. Donc, est-ce que vous avez déjà fait ça, vous, du kickboxing?
Non.
Alors, imaginez alors le cardio kickboxing. C'est une nouvelle façon de faire de l'exercice.
Oui.
Et ajoutez à ça, mettez-vous un bandeau sur les yeux parce que c'est dans l'infolettre de l'Association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain qui offre l'envie de vous défouler, de vous dépasser et de vous sentir plus fort ou plus forte. La session de cardio kickboxing selon la méthode Urban Kick, j'ai aucune idée de ce que je suis en train de lire, est faite pour vous.
Pas obligé de le dire.
Ça paraissait déjà. Hein? Ici, pas de contact, que du fun, de l'intensité dans une atmosphère conviviale où chacun évolue à son rythme. Urban Kick, c'est le meilleur du kickboxing revisité pour le fitness, je vous lis intégralement. Des enchaînements inspirés des arts martiaux sans aucun contact pour un entraînement cardio-dynamique et sécurisé. À chaque séance, vous améliorez votre force, votre forme physique, tout en gagnant en confiance et en relâchant la pression du quotidien. Les intervalles à haute intensité vous garantissent un vrai coup de boost, que vous soyez là pour vous tonifier, vous dépenser ou simplement pour le plaisir de bouger. Ce sont les mardis soirs du 20 janvier au 24 février, de 18h30 à 19h30, au 4449 rue Berry, local 432. Il me semble que c'est le local de l'Association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain.
Okay.
Et c'est 75 $ pour la session complète de 6 cours. En fait, je me trompe, les autres sont sur Saint-Hubert, donc c'est un autre local. Excusez-moi. Donc, pour plus d'informations, vous allez sur le site de l'Association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain, la SAM.
Super. Capsule linguistique avec vous, Monique. Tantôt, j'écoutais votre lecture de l'autisme, une partition génétique complexe, et Florence Dujoux a utilisé le verbe « impacter ». Et je me demandais s'il était rentré dans l'usage.
Bien, je vais faire la recherche, Hélène. Peut-être que oui. Hein?
Peut-être que oui, parce qu'on l'entend de plus en plus.
Oui, mais c'est pas parce qu'on l'entend de plus en plus qu'on aime ça.
Non. Bien, c'est pour ça que je me disais, Monique le dit, sans continue comme si rien n'était, mais là, c'était pas le temps de la capsule. Mais là, c'est le temps et on n'en parlera pas tout de suite d'impacter, en tout cas pas de façon...
Je vais y revenir la semaine prochaine.
Hélène. OK, avec un peu plus de détails. Est-ce qu'on peut vraiment avoir son gâteau et le manger? C'est quoi ça, cette question-là?
Ben, c'est parce qu'il faut éviter de traduire encore une fois, Hélène, les expressions populaires anglaises, même si elles nous semblent plus évocatrices peut-être que l'équivalent français. Alors, on utilise en anglais l'expression « to have one's cake and eat it too » pour illustrer le fait de vouloir profiter en même temps de deux avantages qui s'annulent. L'équivalent en français, ben, c'est similaire et puis tout aussi pittoresque. On peut dire « avoir le beurre et l'argent du beurre ». Alors, on peut se rappeler que dans son sens premier, cette expression signifie qu'on ne peut pas jouir du bien et du fruit de sa vente, puisque logiquement, si on l'a vendu, ben on l'a plus. Alors, cependant, on peut aussi employer cette formule amusante pour exprimer le simple fait qu'il faut parfois faire des choix difficiles et qu'on ne peut pas toujours tout avoir. Alors, avoir le beurre et l'argent du beurre au lieu de manger son gâteau, au lieu d'avoir son gâteau et de le manger.
On retient cela. Merci beaucoup, Monique, de votre présence de ce matin. Merci aussi à Yvan. Et je vous souhaite une belle journée. On se retrouve, je l'espère bien, la semaine prochaine.
Bien
sûr. À la semaine prochaine.
Restez avec nous pour une entrevue avec Catherine Léger, l'autrice de Changer de vie qui prend bientôt l'affiche de la Grande Licorne et les parasports en compagnie de Dominique Tremblay.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
C'est l'heure de la chronique parasport avec Dominique Tremblay. Dominique, bonjour.
Bonjour Hélène, ça va bien aujourd'hui?
Oui, ça va, merci beaucoup. Alors, vous commencez par nous parler d'Alexis Guimond qui continue de s'illustrer dans les montagnes européennes.
Oui, le nom d'Alexis Guimond revient sans cesse sur les podiums de la Coupe du monde de ski paralpin. Le skieur canadien vit tout simplement la meilleure saison de sa carrière et son ascension mérite qu'on en parle un petit peu. Pendant plusieurs années, Guimond faisait partie de l'élite mondiale, mais il se retrouvait toujours dans l'ombre des deux géants de la discipline, le Français Arthur Beauchamp, multiple champion paralympique, et le Suisse Robin Kusch, reconnu pour sa constance redoutable. Alexis Guimond était là régulièrement sur le podium, mais plus souvent en bronze ou en argent. Cette saison, le scénario a changé. Dès l'ouverture de la Coupe du Monde en décembre, Guimond a frappé fort avec deux victoires consécutives en super géant, annonçant clairement ses intentions. On avait d'ailleurs parlé, vous et moi. Mm-hmm. Puis est venue la consécration, une victoire en descente, sa toute première en Coupe du Monde dans cette discipline, après presque 20 essais en descente depuis le début de sa carrière. Une victoire arrachée à coup de centième devant Arthur Beauchamp lui-même. Résultat, 3 médailles d'or cette saison, 2 au cours des derniers jours, auxquelles s'ajoutent des médailles d'argent et de bronze, surtout en épreuve de vitesse. Alexis Guimond n'est plus seulement un habitué du podium, il est devenu un vainqueur régulier. Vous allez me demander, Hélène, qu'est-ce qui a changé? D'abord, c'est sa préparation. Guimond arrive cette saison dans une condition physique exceptionnelle. Il l'a dit lui-même dans un article à Sportcom en début de saison. Il se sent plus fort, plus stable et plus confiant que jamais sur ses skis. Ensuite, il y a le travail tactique, en descente et en super G. Les marges sont minuscules. Cette année, Guimond corrige de petits détails, choisit mieux ses lignes et gère le risque avec une maturité nouvelle. Il y a aussi l'expérience à 28 ans. Alexis est un moment charnière de sa carrière. Il connaît les parcours, il connaît ses adversaires et surtout, il a appris à gagner. Au classement de la Coupe du Monde chez les skieurs debout, sa catégorie, Guimond se situe parmi les tout meilleurs, même s'il se concentre particulièrement sur les épreuves de vitesse. Contrairement à certains rivaux qui accumulent des points dans d'autres disciplines comme le slalom ou le slalom géant. Malgré cela, il rivalise avec ses compétiteurs sur leur terrain de prédilection et il les bat. C'est une bonne nouvelle vu que les Jeux paralympiques vont commencer dans quelques semaines et on devrait le surveiller.
Apprendre à gagner, c'est vrai que c'est un apprentissage.
Oui, ça fait une grosse différence.
Alors, on passe à l'autre sujet. Vous nous parlez de l'Arena de Milan qui sera prêt, je l'espère bien, pour accueillir les Jeux paralympiques.
Oui, bien, je suis sûr que même si ce n'est pas la plus grande fervente de sport, vous avez entendu parler de l'Arena de hockey pour les Jeux olympiques de Milan.
Pour être honnête, non.
Pardon?
Pour être honnête, non, j'en ai pas entendu parler. De l'aréna.
Des problèmes de construction. On n'était pas sûr qu'elle serait construite à temps. Et en plus, il y a 2 jours, il y a eu des problèmes et la glace a fondu. Il y a eu un gros trou d'eau dans le milieu de la partie noire. Donc, on est obligé d'arrêter le match de hockey. On nous a assuré que ça serait prêt pour les Jeux olympiques. Mais dans notre milieu des sports paralympiques, on le sait bien, les Jeux olympiques ne sont jamais une fin en soi. Ils sont surtout un événement test de grandeur nature pour les Jeux paralympiques. Car si l'aréna doit être spectaculaire pour les Jeux olympiques, elle doit être irréprochable pour les Jeux paralympiques. Dans le monde du sport paralympique, on répète souvent cette phrase. Les Jeux olympiques testent les installations. Les Jeux paralympiques les valident. À Milan, cette réalité prend tout son sens. L'aréna est pensée dès le départ pour répondre aux normes d'accessibilité les plus élevées. Les déplacements, l'accessibilité des places pour les personnes assises, puis des gros ascenseurs aussi. Mais pour répondre aux Jeux des Paralympiques, il y a aussi la glace qui est très importante puis qui est modifiée un petit peu. Les exigences sont donc différentes. La surface doit offrir une glisse uniforme, stable, capable de résister aux impacts répétés des luges et des bâtons. Il y a les bancs des joueurs et les bancs des pénalités qui sont aussi adaptés. Donc, les Jeux olympiques serviront de répétition générale, mais les Jeux paralympiques, c'est là où ça devient important. Donc, on espère que ça va être correct pour les Jeux paralympiques.
On l'espère. Et en terminant, Lynn-Marie Bilodeau participe à la plus grosse Coupe du monde de paraski des 4 dernières années.
Oui, c'est ça. Il y a beaucoup, beaucoup d'athlètes. Évidemment, on se prépare pour les Jeux paralympiques. Lynn-Marie Bilodeau est donc en Allemagne. Elle a participé à 2 courses cette semaine. Première fois hier, mercredi, elle a terminé 22e. Et plutôt aujourd'hui, elle a terminé 18e. Donc, une bonne progression. Et on espère qu'elle sera à Milan pour les Jeux paralympiques.
OK. Je n'étais pas sûre que c'était fini.
Oui. Je commence à manquer de voix et j'ai besoin d'un peu d'eau, là.
Bon. Alors, allez boire toute l'eau que vous voulez. Et puis, prenez soin de vous, Dominique. On se retrouve la semaine prochaine.
Merci beaucoup.
Bonne journée.
Tourner, tourner, je fais à ma tête, dans le sens contraire, je suis anti-horaire. Une autre année, dans la lune, sur la terre, je me trouve, je me perds, mais c'est temporaire. Pas de place en terrasse, pas pour emporter. Tout l'été, mes plantes vont pousser. Ma voiture en panne, je vais devoir marcher. Je fais mes 10 000 pas, c'est bon pour ma santé. Pourquoi c'est toujours pareil? Je fais tout à l'envers. Pourtant, pour prendre de l'avance, je cours à ma
flow a ti te llega, porque el mundo nunca para de rodar. Ay, reggae, bom, 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 todo llega a su lugar. Reggae, bom, 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 bom. Ven y baila al ritmo del dembow. Ay, reggae, bom, 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 bom. Ven y baila, baila, baila con tu flow.
Comme dit le dicton, juste pour le citer, pour chaque nuage un reflet argenté. Je reçois les citrons de l'adversité et ma limonade. Toujours sucré.
Chaque chose en son temps, c'était Caracol avec Ramon Chicharon.
Le Théâtre de la Manufacture célèbre ses 50 ans cette année et présente sa 100e production, Changer de vie. Quel beau titre, une pièce écrite par Catherine Léger, dramaturge, scénariste qui est en studio. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Catherine qui a écrit plusieurs pièces, dont Voiture américaine, Babysitter, Deux femmes en or, pièce de théâtre adaptée du film des années 70.
Oui.
Et ensuite, vous avez scénarisé votre pièce de théâtre, ça a été porté à l'écran et ça a connu un grand succès. Et puis, vous avez aussi scénarisé le film Charlotte a du fun, plusieurs autres projets, dont Changer de vie, qui est votre plus récent, mise en scène par Philippe Lambert et qui met en vedette quatre très bons acteurs, actrices, Isabelle Brouillette, Marilyn Castonguay, Steve Laplante et Hubert Proulx. On a déjà hâte, Changer de vie, qui sera présenté à la Grande Licorne à partir du 20 janvier jusqu'au 28 février. Plusieurs dates, ça va
mais,
bien?
Mais on est même rendu au 7 mars.
Oh, il y a eu des supplémentaires déjà d'annoncés. Alors, est-ce que ça vous rend fébrile? Comment vous recevez cette nouvelle-là?
Ah, bien, c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de pression aussi, dans le sens où, tu sais... Moi, je fais de la comédie. Je pense que j'arrive après Deux femmes en or qui était drôle. Tu sais, qu'on était vraiment dans la comédie à punch au théâtre. Au cinéma, c'était comme plus... c'était un autre ton. Puis là, j'arrive avec une comédie encore, mais je dirais que j'ai joué plus sur la surprise. C'est plus conceptuel aussi. Fait que c'est on rentre dans un autre univers, mais on garde quand même la comédie... la comédie sur les rapports humains, sur le besoin d'exister par rapport à l'autre, fait que j'ai hâte de voir la réaction.
Et qu'est-ce que vous aviez envie d'exprimer à travers une comédie sur les rapports humains?
Dans ce cas-ci, principalement, tu sais, le titre l'annonce bien, là, Changer de vie. Tu sais, cette idée-là moi, je suis obsédée par cette idée-là, non pas de changer ma vie, parce que j'aime ma vie, j'ai été choyée, je suis bien entourée, mais... Il y a quand
J'aime
même,
ma vie, c'est un beau titre.
Ça. Aussi, ça sera la prochaine. Mais il y a quand même une espèce toujours de... Ah, mais qu'est-ce si ça avait été autre chose? Ou qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Ou qu'est-ce que... est-ce que j'ai pris certaines décisions, puis là, ça m'a envoyé dans une direction, puis là... Tu sais, donc, j'ai ces réflexions-là. Je pense que c'est humain aussi. J'ai 45 ans, ça fait partie du genre de questions. Puis finalement, ça m'a amené à réfléchir beaucoup au processus décisionnel et à la fatigue décisionnelle, puis à la pression qu'on a en ce moment de prendre les bonnes décisions.
Ouais.
Puis là, on parle dans la pièce aussi d'intelligence artificielle, mais ce qui m'intéressait là-dedans, c'était à quel point l'idée de ChatGPT qui commence à répondre à nos questions ou l'intelligence artificielle qui répond à nos questions, ça fait en sorte que ça donne encore plus cette impression-là qu'il y a une bonne réponse, qu'il y avait une bonne décision à prendre, mais je trouve que ça enlève beaucoup d'émerveillement, ça enlève beaucoup de surprises, ça enlève beaucoup de toute façon, prendre une bonne décision, c'est quoi? Des fois, ça semble être la bonne décision, mais pour nous, à ce moment-là, c'est pas la bonne décision. Donc, je me suis
très
beaucoup intéressée à ça.
Oui. Ouais. C'est une comédie, mais il y a comme un fond philosophique.
Ben oui, c'est toujours... Tu sais, j'essaie toujours d'aller un petit peu où ça fait mal, dans le sens où, tu sais, comme Deux femmes en or, on abordait quand même les thèmes du vieux couple, de l'ennui. Puis là, j'étais en continuité avec ça, mais...
Là, il y a deux couples sur la scène.
Oui, en fait, un couple, puis deux éléments perturbateurs. Qui sont joués par Marilyn Castonguay et Hubert Proulx, qui vont venir dans la vie du couple. Mais, en fait, c'est ça. Ce que je voulais explorer, c'est surtout, je pense que c'est plus confrontant sur notre rapport nous-mêmes à la technologie. On est plus dans les milliers de décisions qu'on prend à chaque jour. Mm-hmm. Puis je suis allée plus vers l'autodiscipline. Je questionne comment on organise nos vies.
Quand vous parlez de charge décisionnelle, de fatigue décisionnelle, ça veut dire qu'on a des décisions à prendre aux deux secondes, puis on est fatigué de ça. C'est quoi exactement la fatigue décisionnelle? C'est le fait de pas savoir quelle décision prendre ou on s'arrache les cheveux parce qu'on se dit, est-ce que je m'en vais dans la bonne direction, comme vous le disiez tantôt?
Oui, exactement. Puis c'est ça, c'est la peur de pas prendre les bonnes décisions,
de ne
pas faire les bons choix, de rater le bateau.
C'est la vie, ça.
C'est la vie. Mais moi, je suis une personne qui vit beaucoup de culpabilité. Fait que c'est sûr que j'ai mis ça dans la pièce, cette culpabilité-là. Puis mais en même temps, quand tu fais ça, tu as l'impression que tu as beaucoup de contrôle. Se sentir coupable, c'est pas vouloir admettre qu'on n'a pas le contrôle sur tout dans la vie. Fait que je trouve que quand on s'intéresse trop à nos propres décisions, c'est une façon d'être très contrôlant. Et c'est comme si on a notre petite boîte qu'on traîne partout avec nous, notre petit téléphone qui nous aide à prendre toutes ces décisions-là. Puis finalement, on veut tout contrôler. Mm-hmm. Mais il est où le plaisir, là?
Tout à fait. Alors, est-ce que vous avez eu recours à l'IA, à ChatGPT pour écrire « Changer de vie » parce que vous semblez être un peu réfractaire par rapport à l'intelligence artificielle?
Oui, bien, j'ai joué avec ChatGPT. J'ai aussi essayé. Comme, tu sais, c'est la vie de scénariste, il y a des hauts et des bas, puis il y a des moments où tu te poses beaucoup de questions sur quel... Tu sais, fait que j'ai joué, j'ai fait l'exercice de l'essayer pour vrai, en me disant, OK, de quoi j'ai besoin en ce moment? Puis là, j'avais des doutes sur un autre projet. Mm-hmm. Je l'ai essayé. Je l'ai utilisé pour vrai, là, en me disant, OK, viens me sauver. Là, je suis bloquée avec ce projet-là. ChatGPT, viens me sauver.
Est-ce que ChatGPT vous a sauvé?
Non.
Non.
Non. J'étais un peu déçue. Puis après, je me suis
dit... Est-ce que vous lui avez dit?
Oui, je pense que je lui ai dit, ouais, mais il était, puis c'est ça que j'ai réalisé en l'utilisant, qu'il était vraiment très, très gentil. Et ça, ouais. Je trouvais ça intéressant. Puis d'ailleurs, on en parle de ça dans la pièce. Ah, il est gentil.
Il est bienveillant.
Oui, et donc ça fait que tu le remets moins en doute.
Ah oui, c'est encore plus dangereux, c'est ça, insidieux.
Ben oui, mais il s'est trompé, mais il est gentil. Mais tu sais, je trouve ça, pour moi, c'est ce qui m'a le plus marqué. Je m'attendais pas à ça. Parce que, surtout que je trouve que les communications par courriel, souvent, on y va un peu trop vite. Puis moi, je suis genre un peu parano à surinterpréter l'absence de gentillesse dans un courriel. Puis ouais. Dire, la personne est-tu fâchée? Puis je suis sûre que je suis la pire aussi. J'écris des courriels très rapidement, très courts. Fait que là, tout d'un coup, là, d'avoir des communications comme ça, si gentilles, c'est venu me chercher. Fait que là, j'ai pris du recul un peu.
Et l'histoire de la pièce, vous dites qu'il y a un couple et deux éléments perturbateurs.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe exactement ou qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
Bien, la pièce. Puis là, j'ai repris un peu une prémisse, puis des thèmes, puis des personnages que j'avais déjà explorés dans la version Changer de vie qu'on avait fait au Petit Théâtre du Nord en 2022. Mm-hmm. Mais comme la technologie bouge super vite, j'ai réécrit pour la licorne. Mais la pièce commence, c'est cette prémisse de... Il est 4 heures du matin, puis... Il y a une fille qui débarque, qui est jouée par Marilyn Castonguay, Jasmine, qui débarque au milieu de la nuit, 4 heures du matin, chez Nathalie et Christian, le couple qui est interprété par Steve Laplante et Isabelle Brouillette. Et elle veut un café.
À 4 heures du matin.
À 4 heures du matin. Et là, on comprend que Nathalie a partagé sur Facebook le fameux message qui circule depuis des années, qui a commencé avec Belle Cause pour la Cause, je crois, qui est très noble, c'est mm-hmm. très, très noble. Mais les gens mettent ça sur Facebook, genre, ma porte est toujours ouverte, bière et vin sur place, en train de faire un vrai chèque d'amis, le café est facile à préparer. Et ça, je regardais ça, puis je voyais les gens que je connais, que j'aime, le partager, puis je me disais, mais qu'est-ce qui arrive si quelqu'un débarque? Tu sais, c'est un peu bizarre.
Oui, ouais. Quelqu'un qui prend ça au mot, là,
quelqu'un
au pied de la lettre.
Quelqu'un qui prend ça au mot. Et là, tu as Jasmine qui débarque puis qui dit, ben oui, ben je veux mon café.
Ben oui, tu m'as invité.
Oui, je suis suicidaire, je veux un café. Mais on sent déjà qu'elle n'est pas... C'est louche, elle n'est pas suicidaire. Donc, mm-hmm. pourquoi elle est là? Es-tu là pour provoquer Nathalie, pour montrer à Nathalie que finalement... C'était n'importe quoi, son message.
Elles se connaissent pas du tout?
Elles se connaissent comme on connaît des amis Facebook.
Ouais.
Tu sais, c'est la demi-sœur d'une de ses amies d'enfance à qui elle parle plus de toute façon. Exact. Et donc, mais Jasmine arrive dans la vie de Nathalie au moment où Nathalie se questionne beaucoup sur sa vie, qui va bien, mais qui la satisfait pas, et qui est insatisfaite de sa thérapie, qui est insatisfaite de tout. Elle n'arrive pas à changer de vie. Et donc, elle décide que, tu veux venir cogner à ma porte à 4 heures du matin? Mais je vais t'aider, je vais te prendre en charge. Et là, ils rentrent dans une dynamique d'amitié, je te dirais, de body movie un peu, là, les deux filles,
ouais.
qui va les amener à vivre des surprises.
Et le conjoint est témoin de ça.
Oui, mais il n'est pas très d'accord.
Ouais.
Oui.
Puis il y a la quatrième personne perturbatrice.
Ça, c'est Hubert Proulx. Oui, Hubert Proulx qui arrive, qui fait partie, à un moment donné, les filles vont se mettre à faire des activités ensemble, prennent des décisions ensemble. Et là, Hubert Proulx, il croise Marco.
Il aussi a prendre Hubert un café.
Lui, c'est peut-être plus un petit gin. Mais donc, il croise Marco sur leur route. Et encore là, le personnage de Nathalie, qui est prête à changer de vie, laisse Marco entrer dans leur vie. Fait que c'est vraiment... Tu sais, j'utilise l'effet de surprise de « on va d'une péripétie à l'autre ». Mais à travers tout ça, le thème qui revient, c'est vraiment la fatigue décisionnelle, la place qu'on fait aussi à... à ChatGPT dans notre processus décisionnel. Puis,
aux réseaux sociaux aussi.
Oui, oui. Mm. Et donc, fait qu'on on navigue avec eux jusqu'à temps qu'ils se mettent un peu trop dans le pétrin.
Et est-ce que le spectateur vit ça comme un thriller?
Non, je pense qu'on est vraiment dans la comédie. Ouais. Dans la comédie, ouais. On n'est pas trop en train... Quoique, peut-être qu'on est intrigué de faire « Ah ben oui, si on prend cette décision-là, où ça nous mène? »
Ou mais... le fait que ce personnage-là qui débarque à 4 heures du matin, on se demande qu'est-ce qu'elle veut exactement, mais on le sait assez vite.
Oui, on le sait assez vite. Okay. On sait assez vite que finalement, il développe une amitié.
Ah bon,
c'est... Je voulais pas... Il y a pas
c'était
de...
bienveillant.
Oui, exact. Il n'y aura pas de surprise ou de révélation okay. là-dessus.
Est-ce que vous avez assisté aux répétitions, Catherine Léger?
Parce
que j'imagine que c'est un plaisir de voir ces quatre acteurs, actrices-là qui sont de haut calibre, des grands talents, ça.
Oui, c'est un grand plaisir. C'était un grand plaisir aussi parce que j'ai continué d'écrire après que la distribution a été faite. Donc, c'est agréable.
Oui, vous aviez les personnages, les comédiens en tête.
Oui,
là.
Puis en plus, Hubert Proulx, c'est la première fois... il a joué dans Babysitter, le film, mais tu sais que là, que je travaille avec lui autant, mais on se connaît depuis l'école de théâtre, Hubert Proulx. Et moi, fait que j'étais vraiment contente de le retrouver là-dessus. Marilyn Castonguay, c'est une découverte, mais c'est une actrice incroyable. Dans le sens, c'est une découverte humaine, mais évidemment, j'étais ravie qu'elle accepte de jouer dans la pièce. Puis là, ben, je retrouvais Steve et Isabelle, dont je connais la musique, dont je connais la dynamique.
Qui avaient joué dans Deux femmes en or.
Qui ont joué dans Deux femmes en or, dans Babysitter. Fait que, c'était vraiment, au niveau de l'écriture, c'était vraiment satisfaisant. C'était inspirant. Ça m'a poussé plus loin.
Et j'imagine que votre texte aussi les inspire. Ça doit être un plaisir.
Mais j'espère, là, on est à quelques jours de la première, fait que je ne sais pas si on est dans l'inspiration ou la nervosité, mais...
Un mélange de tout ça.
Un mélange de tout ça,
et
oui.
Philippe Lambert aussi, c'est un complice de quelques années. Là. Vous avez collaboré à quelques reprises avec lui, Philippe Lambert,
qui
signe la mise en scène.
C'est notre cinquième collaboration.
Qu'est-ce que vous aimez dans son travail?
Mais je pense qu'on est obsédé par les mêmes choses.
Ah ouais?
C'est le texte, c'est les acteurs, c'est le dialogue. Je trouve qu'il arrive à créer des images fortes, mais en étant collé sur la vérité. Puis il va chercher l'humour. Tu sais, c'est un ton aussi. Je suis pas nécessairement dans de l'humour à punch. Mais fait qu'en même temps, il faut que les acteurs soient sérieux, mais ils peuvent pas tomber dans le drame. Fait que c'est comme un ton.
Une fine ligne.
Oui, puis ça, ben comme là, on l'a cherché ensemble, on l'a trouvé ensemble, puis là, on l'a.
Vous l'avez?
Oui.
Wow.
Fait que c'est toujours très aussi confortable de travailler avec Philippe, puis c'est un bon lecteur, puis c'est un excellent directeur d'acteurs, puis on se comprend.
Ça clique.
Oui.
Et votre rapport aux réseaux sociaux, quel est-il, Catherine Léger?
Je suis accro à Marketplace.
Ah oui?
Accro à
faire
Marketplace.
Attention, hein? Vous avez lu l'article?
Non, pour la
fraude. Là, qui s'est fait prendre.
Non, mais moi, ce que j'achète, c'est pas des trucs. Tu sais, j'achète la vaisselle antique puis des tapis.
Mais vous n'allez pas chez les gens, nécessairement?
Oui, je vais chez les gens.
Oui, vous allez
mais
chez
c'est
les
parce
gens?
Que si tu veux faire une fraude, tu vas pas mettre de la vaisselle antique sur Facebook parce que ça intéresse trop peu de gens.
Oui, j'espère.
Ben oui. Non, j'ai acheté énormément sur Marketplace. J'ai des bonnes expériences, mais je suis prudente quand même.
Oui.
Mais c'est un peu, tu sais, des fois, je suis fatiguée, puis j'ai eu des grosses semaines, puis là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui apparaît, puis je suis ici à Montréal, puis c'est quelqu'un de Blainville qui le vend, mais il me le faut absolument, là, puis je vais embarquer dans mon auto pour m'en aller à Blainville. Ça, c'est un petit peu maladif, des fois, là, il faudrait que je fasse attention.
Bon, au moins, vous en êtes consciente.
Oui.
Si on revient à la pièce, il va y avoir aussi des activités parallèles, une causerie qui va être avec India Desjardins et vous, Catherine Léger, le 11 février. Ce sera après la représentation, j'imagine?
Oui, exactement.
Vous avez fait appel à India?
Bien, c'est drôle parce que c'est Philippe qui a choisi, mais moi, je suis une grande fan d'India, puis à chaque fois qu'on se croise, on a comme des tonnes d'affaires à se dire, puis on se croise pas assez souvent. Puis j'adore, tu sais, moi, je rêve d'avoir, tu sais, de toucher le plus de personnes possible. Puis India, je trouve qu'elle fait des œuvres intelligentes qui touchent énormément de personnes. J'admire son travail, j'admire son approche. Et donc, fait que je suis ravie. J'adore discuter avec elle. Puis là, elle a lu le texte, puis déjà, on a parlé un peu du texte, puis elle m'a appris des choses sur mon texte. C'est une personne... En tout cas, c'est un gros cerveau, vraiment, je suis gâtée.
Alors, c'est le 11 février pour ceux et celles qui vont avoir la chance de se déplacer ce jour-là, qui ont des billets déjà, parce que les billets s'envolent vite. Et puis aussi, il faut souligner la représentation en théâtre description. Ça va être le samedi 21 février à 16h. C'est bien, ça c'est pour les personnes non-voyantes ou malvoyantes. Il s'agit donc pour ces personnes-là de se rendre au théâtre. Ils vont avoir accès à une description détaillée de ce qui se passe sur scène, racontée en direct. Mmh. Et c'est, si vous voulez avoir plus d'infos, vous faites théâtrelalicorne.com/accessibilité. Alors, c'est du théâtre inclusif qu'on offre à la Licorne.
Voilà.
Tant mieux. Catherine Léger, bon succès. Qu'est-ce que vous faites en ce moment, là, à part magasiner sur Marketplace et être un peu fébrile par rapport à la première qui s'en vient?
Et je redécouvre le plaisir. Je ne peux pas en parler, mais je vais en parler. Je redécouvre le plaisir d'écrire pour la télévision.
Oui,
je suis en développement sur un projet qui me tient très, très, très à cœur. Puis, j'ai aussi des nouveaux projets qui se préparent au cinéma, donc Kamouraska. Mais c'est ça, je m'en vais dans le drame. Mais oui, je m'en vais dans le drame en cinéma.
Ça a un rapport avec le roman d'Anne Hébert?
C'est une nouvelle adaptation du roman d'Anne Hébert.
Ah oui, c'est drôle, on en parlait hier en ondes du film de Claude Strat.
Ah oui?
Ouais,
ah ouais. Bon, mais on sait, il y a tellement... C'est une œuvre, le roman d'Anne Hébert, c'est une œuvre, c'est tellement riche. Et le film qui a été fait, c'est un film superbe, mais il était très, très collé sur le roman. Donc c'est comme si le film... Vraiment, l'adaptation directe, pure du roman a été faite. Fait que nous, on peut se permettre d'aller explorer un petit peu plus. Puis là, on s'intéresse au contexte politique dans lequel ce drame-là se passe, parce que ça se passe en 1840. Mm-hmm. Donc, c'est après... c'est comme dans une ambiance de fin du monde, un petit peu. T'sais, c'est après les Patriotes, c'est après... Peu importe. Puis le Québec était déchiré, là. C'était pas... fait que je trouve ça intéressant dans le contexte politique actuel de revisiter
oui.
ça. Ouais.
Super idée. Beau projet.
Kamouraska, avec Mathieu Denis à la réalisation, vraiment.
En 2027-2028?
Le plus tôt possible. Oui.
Mais en attendant, il faut voir Changer de vie à partir du 20 janvier jusqu'au 28 février. Vous m'avez dit jusqu'au 7 mars.
Oui.
Au théâtre La Licorne dans la grande salle. Merci Catherine Léger.
Merci.
C'est tout pour Au quotidien. Ici Hélène Denis qui vous souhaite une très belle journée. On va se retrouver non pas mardi, mais mercredi prochain à compter de 9h30. Lundi, c'est Denis Martin Chabot qui sera avec vous. Et soyez prudents là, avec cette neige qui tombe. Il y a déjà plusieurs sorties de route. Prenez le métro. Bye bye.